Chapitre 5. Orateur. 17. Trentor. 8000 ans durant, Trentor avait été la capitale de la plus vaste et la plus puissante des entités politiques, embrassant une union de systèmes planétaires sans cesse grandissante. 12000 ans plus tard, c'était devenu la capitale d'une entité politique englobant l'ensemble de la galaxie. C'était le centre, le cœur, l'épitomé de l'Empire galactique. Il était impossible de penser à l'Empire sans penser à Trentor. L'Empire était déjà en pleine décadence lorsque Trentor avait atteint l'apogée de sa splendeur. En fait, personne alors ne remarqua qu'il avait perdu sa position dominante, effacée qu'il était par l'éclat métallique de Trentor. Éclat qui avait atteint son point culminant lorsque la cité avait recouvert toute la planète. On avait alors, autoritairement, limité la population au chiffre de 45 milliards d'âmes. Les seuls espaces verts subsistants en surface étant les jardins du palais impérial et le complexe université-bibliothèque. La surface entière de Trentor était recouverte de métal. Ces déserts, comme ces zones fertiles, avaient été engloutis pour être convertis en taupinières humaines, en jungles de bureaux, en complexes informatiques, en vastes entrepôts de vivres et de pièces détachées, ces chaînes de montagnes rasées, ces gouffres comblés. Les corridors sans fin de la cité creusaient le plateau continental et les océans avaient été convertis en gigantesques réservoirs souterrains pour l'aquiculture qui était devenue la seule et bien insuffisante ressource locale en nourriture et en sels minéraux. Ces échanges avec les mondes extérieurs, grâce auxquels Trentor obtenait les matières premières qui lui faisaient défaut, était tributaire de ses 1000 spatioports, de ses 10000 vaisseaux de guerre, ses 100000 vaisseaux de commerce, 100 millions de cargos spatiaux. Aucune cité de cette échelle ne pratiquait aussi strictement le recyclage. Aucune planète de la galaxie n'avait fait un aussi large emploi de l'énergie solaire, ni n'était allée aussi loin dans l'élimination des excédents de chaleur. Des radiateurs scintillants se déployaient jusque dans les couches raréfiées de la haute atmosphère sur la face nocturne pour se rétracter à mesure que progressait le jour. Ainsi, Trentor arborait-elle en permanence une asymétrie artificielle qui était presque le symbole de la planète. À son apogée, Trentor avait dirigé l'Empire. Elle le dirigeait tant bien que mal, mais rien n'aurait pu le diriger convenablement. L'Empire était bien trop vaste pour être gouverné depuis une planète unique, même sous la férule du plus dynamique des empereurs. Comment Trentor aurait-elle pu le gouverner mieux quand, en pleine décadence, la couronne impériale se voyait marchandée par des politiciens retors ou des imbéciles incompétents, tandis que la bureaucratie était devenue l'école de la corruption? Mais même au plus sombre moment, toute cette pesante machinerie gardait une certaine valeur en soi. L'Empire galactique n'aurait pu fonctionner sans Trentor. Il s'effritait régulièrement, mais aussi longtemps que Trentor restait Trentor, subsistait un noyau d'Empire, maintenant toutes les apparences de la gloire, de la pérennité, de la tradition, du pouvoir et de l'exaltation. Ce ne fut que lorsque l'impensable arriva, la chute de Trentor et sa mise à sac, la mort pour des millions de ses citoyens et la famine pour des milliards d'autres, la destruction de son épaisse carapace métallique, déchirée, perforée, fondue sous les coups de la flotte barbare, ce fut à ce moment seulement que l'Empire voulut bien admettre sa chute. Les survivants d'une planète jadis imposante achevèrent de détruire ce qui avait pu subsister. Et en l'espace d'une génération, Trentor, qui avait été la plus grande planète qu'eût jamais connue la race humaine, n'était plus devenu qu'un inconcevable amas de ruines. Tout cela remontait à 2 siècles et demi. Mais dans le reste de la galaxie, on n'avait toujours pas oublié la Trentor d'Aman. Elle continuerait de vivre éternellement. site de choix des romans historiques, symbole éternel ou souvenir du passé, et nom qui revenait sans cesse dans des expressions telles que « tous les astronefs atterrissent à Trentor », « plus long que de chercher quelqu'un à Trentor » ou « entre ça et Trentor, il y a un monde » dans tout le reste de la galaxie. Mais ce n'était pas vrai sur Trentor même. Ici, on avait oublié la planète de jadis. La surface métallique avait disparu presque partout. Trentor était à présent un monde agraire, peuplé de rares colonies vivant en autarcie, un endroit où les vaisseaux de commerce faisaient rarement escale, et où d'ailleurs ils n'étaient pas spécialement les bienvenus. Ce nom même de Trentor, bien que toujours officiellement en usage, avait disparu du langage courant. Les Trentoriens contemporains appelaient leur planète « Choyer », une déformation dialectale du terme « foyer », utilisé en galactique classique. C'est à tout cela que songeait Quindor Shandes, et à bien d'autres choses, en s'asseyant tranquillement dans cet état béni de semi-léthargie où il pouvait laisser librement dériver son esprit au gré de ses pensées errantes. Cela faisait 18 ans qu'il était premier orateur de la seconde fondation, et il pouvait bien tenir 10 ou 12 ans de plus si son esprit restait raisonnablement alerte et s'il pouvait continuer à déjouer les intrigues politiques. Il était l'analogue, l'exact reflet du maire de Terminus qui dirigeait la première fondation. Pourtant, comme il pouvait différer dans tous les domaines. Le maire de Terminus était connu de toute la galaxie, et la première fondation était par conséquent la fondation tout court pour toutes les planètes. Le premier orateur de la seconde fondation n'était quant à lui connu que de ses associés. Et pourtant, c'était la seconde fondation sous son égide et celle de ses prédécesseurs qui détenait le véritable pouvoir. La première fondation avait certes la suprématie dans le domaine de la force physique, de la technologie, des armes de guerre. La seconde fondation avait, elle, la suprématie dans le domaine de la force mentale, des pouvoirs de l'esprit et de la capacité à les diriger. Dans l'éventualité d'un conflit entre les deux, qu'importait la quantité d'armes et de vaisseaux dont disposait la première fondation si la seconde était à même de contrôler l'esprit de ceux qui dirigeaient ses armes et ses vaisseaux. Mais combien de temps pourrait-il se délecter encore de l'existence de ce pouvoir secret? Il était le 25e premier orateur, et la durée de son mandat avait déjà quelque peu dépassé la moyenne. Ne devrait-il pas plutôt être moins enclin à s'accrocher, à écarter les plus jeunes aspirants? L'orateur Jean Dibal, par exemple, le dernier admis à la table, mais pas le moins ardent. Il devait le voir ce soir, et Shandes attendait beaucoup de cette rencontre. Devrait-il également s'attendre à lui laisser peut-être sa place un jour? En fait, Shandes n'avait pas vraiment l'intention de quitter son poste, il s'y plaisait trop. Le vieil homme restait donc là, certes âgé, mais encore parfaitement capable d'exercer les devoirs de sa tâche. Ses cheveux étaient gris, mais ils avaient toujours été clairs, et comme il les portait taillés courts, leur teinte n'avait guère d'importance. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, et ses habits avaient la coupe terne des vêtements que portaient les fermiers trentoriens. Le premier orateur pouvait, s'il le voulait, se faire passer au milieu des Choyens pour un des leurs, mais son pouvoir caché n'en subsistait pas moins. Il pouvait à tout moment décider de fixer son œil ou son esprit afin de les forcer à se plier à sa volonté sans qu'ils en gardent le moindre souvenir par la suite. Mais cela se produisait rarement, pour ainsi dire jamais. La règle d'or de la seconde fondation était « ne jamais rien faire qu'on y soit obligé. Et s'il faut tout de même agir, alors hésitez. » Le premier orateur soupira doucement. Vivre dans la vieille université à l'ombre de la grandeur passée des ruines proches du palais impérial finissait par vous laisser songeur quant à la validité de cette règle d'or. À l'époque du grand pillage, la règle d'or avait été durement mise à l'épreuve. Il n'y avait pas moyen de sauver Trentor sans sacrifier le plan Seldon destiné à instaurer un second empire. Il aurait certes été humain d'épargner ses 45 milliards d'habitants, mais le faire eût été maintenir le noyau du premier empire, et donc retarder le calendrier. Cela n'aurait en fin de compte abouti qu'à une plus grande destruction quelques siècles plus tard, et peut-être empêcher définitivement toute instauration d'un second empire. Les tout premiers orateurs avaient planché des décennies durant sur la prévision clairement énoncée de cette destruction finale, mais sans y trouver aucun remède. Il n'y avait pas moyen à la fois de sauver Trantor et de préparer l'avènement du second empire. Entre deux maux, il avait fallu choisir le moindre, et c'est ainsi que Trantor avait été détruite. Les fondateurs de ce temps-là étaient parvenus d'un cheveu à sauver le complexe université-bibliothèque, ce qui avait encore été une source perpétuelle de culpabilité par la suite, bien que personne n'ait jamais pu démontrer que sauver le complexe avait conduit à l'ascension météorique du mulet, on s'accordait intuitivement à lier les choses. Comme on avait alors frôlé la catastrophe totale. Pourtant, après les années sombres du pillage et du mulet, était venu l'âge d'or de la seconde fondation. Mais avant cela, et pendant plus de 2 siècles et demi après la mort de Seldon, les fondateurs s'étaient enfouis tels des taupes dans la bibliothèque, dans le souci avant tout de se garder des impériaux. Ils servirent donc comme bibliothécaires dans une société en décomposition qui se souciait de moins en moins de cette bibliothèque galactique qui méritait de moins en moins son nom et était tombée en désuétude, ce qui servait au mieux les intérêts de la seconde fondation. Une vie sans noblesse. Les fondateurs se contentaient de maintenir l'existence du plan, tandis que là-bas, à l'autre bout de la galaxie, la première fondation se débattait pour défendre son existence contre des ennemis sans cesse plus puissants, sans recevoir le moindre secours de la seconde fondation, ni d'ailleurs avoir réellement conscience de son existence. C'était en fait le grand pillage qui avait libéré la seconde fondation. Encore une raison, le jeune Jean Dibal, qui ne manquait pas de courage, avait affirmé récemment que c'était en vérité la raison principale pour l'avoir laissé se produire. Après le grand pillage, donc, l'Empire avait disparu, et au cours de cette dernière période, aucun des rescapés de Trantor n'avait pénétré dans le territoire de la seconde fondation sans y avoir été invité. Les fondateurs veillaient jalousement à ce que le complexe université-bibliothèque qui avait survécu au pillage, survivent également à la Grande Renaissance. On avait également conservé les ruines du palais. Le métal avait pratiquement disparu de tout le reste de la planète. Les grands corridors interminables avaient été recouverts, comblés, condamnés. Ils étaient effondrés, détruits, ignorés, enterrés sous la terre et la roche. Partout, excepté là où le métal apparaissait encore à l'entrée des lieux antiques conservés. On pouvait y voir un grand mémorial de la grandeur passée, le sépulcre d'un empire, mais pour les Trantoriens d'aujourd'hui, les Choyens, c'était des lieux hantés, habités de fantômes, et qu'il valait mieux ne pas déranger. Seuls les fondateurs mettaient les pieds dans les corridors antiques où venait caresser l'éclat du titane. Et même ainsi, tout avait failli être vain à cause du mulet. Le mulet était effectivement venu à Trantor. Que serait-il arrivé s'il avait découvert la vraie nature du monde sur lequel il se trouvait? Son armement matériel était considérablement plus vaste que celui à la disposition de la seconde fondation, ses armes mentales presque équivalentes, et la seconde fondation aurait toujours été handicapée par l'obligation de ne rien faire que le strict nécessaire et la certitude que presque tout espoir de victoire immédiate risquait de se traduire par une plus grande défaite future. C'était sans compter avec Beïta Darel et son action éclair. Et là aussi, sans le secours de la seconde fondation. Et ensuite, l'âge d'or, où enfin les premiers orateurs avaient plus ou moins trouvé le moyen de se rendre utile, stoppant le mulet dans sa course conquérante, contrôlant enfin son esprit, et stoppant en définitive la première fondation dès que, devenue un peu trop curieuse, elle avait commencé de manifester son inquiétude au sujet de la nature et de l'identité de la seconde fondation. C'était Prim Palver, 19e premier orateur, et le plus grand de tous, qui était parvenu à mettre fin à tout danger, non sans de terribles sacrifices, et à sauver le plan Seldon. Dorénavant, et pour 120 ans, la seconde fondation se retrouvait à nouveau comme jadis, dissimulée dans une zone perdue de Trentor. Les fondateurs ne se cachaient plus désormais des impériaux, mais ils évitaient toujours les membres de la première fondation, laquelle était entre-temps devenue presque aussi vaste que l'Empire galactique et le surpassait en maîtrise technique. Le premier orateur ferma les yeux dans l'agréable tiédeur, se laissant glisser dans l'état onirique et relaxant d'une expérience hallucinatoire qui n'était ni tout à fait du rêve, ni tout à fait de la pensée consciente. Mais assez de morosité. Tout irait pour le mieux. Trentor était encore la capitale de la galaxie, et la seconde fondation s'y trouvait. Une seconde fondation devenue plus puissante que l'empereur, et capable de contrôler la situation mieux que jamais aucun empereur ne l'avait pu. La première fondation se verrait contenue, et guidée, et forcée à se mouvoir dans la bonne direction. Si formidables que soient ses vaisseaux et ses armes, elle ne pourrait rien faire tant que ses personnalités clés pouvaient, à tout moment, être contrôlées mentalement. Et le Second Empire arriverait, mais il ne serait pas identique au premier. Ce serait un empire fédéral, dont chaque élément jouirait d'une autonomie considérable, ce qui lui éviterait toutes les apparences de force et toutes les faiblesses bien réelles d'un gouvernement unitaire et centralisé. Le nouvel empire serait plus lâche, plus souple, plus flexible, plus à même de supporter les tensions, et serait toujours guidé, toujours, en secret, par les hommes et les femmes de la Seconde Fondation. Trentor en serait toujours la capitale, mais une capitale plus puissante avec ses 40 000 psychohistoriens que jamais elle ne l'avait été du temps de ses 45 milliards d'habitants. Le premier orateur s'éveilla soudain de sa transe. Le soleil était bas sur l'horizon. Avait-il marmonné? Avait-il parlé à haute voix? Si la seconde fondation devait en savoir beaucoup et en dire peu, les orateurs qui la dirigeaient devaient en savoir encore plus et en dire moins encore. Quant au premier d'entre eux, il devait être celui qui en savait le plus et en disait le moins. Il eut un sourire désabusé. Il était toujours si tentant de devenir un patriote trentorien, de ne voir dans tout le projet d'instauration du Second Empire que prétexte à assurer l'hégémonie trentorienne. Seldon avait mis en garde contre ce risque, car même cela, il avait su le prévoir 5 siècles à l'avance. Le premier orateur n'avait pas dormi trop longtemps toutefois. Il n'était pas encore l'heure de l'audience de Jean Dibal. Chandès se réjouissait de cette rencontre en privé. Jean Dibal était assez jeune pour voir le plan d'un regard neuf et assez fin pour y déceler ce que d'autres ne sauraient voir. Et il n'était pas impossible que ce jeune homme lui apprît quelque chose. Nul ne pourrait jamais dire avec certitude jusqu'à quel point Prime Palver, le grand Prime Palver lui-même, avait tiré profit de ce jour où le jeune Cole Benjoham, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, vint s'entretenir avec lui des moyens éventuels de s'occuper de la première fondation. Dans les années qui suivirent, Benjoham, qui devait plus tard être reconnu comme le plus grand théoricien depuis Seldon, ne dit jamais mot de cette audience, mais devint au bout du compte le 21e premier orateur. Et d'aucuns mettaient à son crédit plutôt qu'à celui de Palver les grandes réalisations du gouvernement de ce dernier. Chandès s'amusa à imaginer ce que Jean Dibal allait lui dire. Il était de tradition que les jeunes élus, confrontés seul à seul au premier orateur pour la première fois, résument toute leur thèse dès la première phrase. Et sans doute n'allait-il pas réclamer cette précieuse première audience pour quelque prétexte trivial, prétexte susceptible de ruiner ensuite toute leur carrière future, en convainquant le premier orateur de leur légèreté. 4 heures plus tard, Jean Dibal était devant lui. Le jeune homme ne trahissait aucun signe de nervosité. Il attendit calmement que Chandès entame la conversation. « Orateur, » dit ce dernier, « vous avez réclamé une audience particulière pour une affaire d'importance. Pourriez-vous, je vous prie, me résumer cette affaire ?» Et Jean Dibal, s'exprimant avec calme, presque comme s'il devait donner le menu de son dîner, lui dit « Premier orateur, Le plan Seldon n'a aucun sens.